baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Phil Frétinier.
Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel, vous écoutez l'émission Baroque ou Classique en compagnie de Philippe Frétinier. Alors, avec une petite précision, c'est-à-dire que cette émission, à l'origine, était prévue pour une série de 8 ou 9 épisodes. Finalement, il y a encore beaucoup, beaucoup à dire sur cette question. Et avec Philippe Frétinier, enfin, je l'ai invité à ce qu'on continue cette émission. Il a très gentiment accepté parce qu'il a encore énormément de choses à nous dire sur le sujet. Alors, on va commencer par une séance de rattrapage, puisque les premières émissions sont passées cet été. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de les écouter encore. Enfin, on peut les retrouver évidemment en podcast. Mais on va faire une petite reprise qui n'est pas une introduction, mais qui est une synthèse autour de quelques points très importants de ce que vous nous avez dit, Philippe Frétinier, autour de cette question baroque et classique. Je rappellerai d'emblée, ou je le dirai pour ceux qui prennent l'émission à partir de maintenant, que c'est à la fois pour le terme baroque un usage que vous reprenez en partie, tout en indiquant à quel point il n'est pas... ce terme-là n'est pas un concept vraiment opératoire dans aucun des arts. Et notamment, vous dites plusieurs choses. Vous dites d'abord, baroque, est-ce que ça désigne une époque? Pas vraiment. Est-ce que ça désigne un genre? Certainement pas. Et puis par ailleurs, il n'y a pas vraiment pour vous de possibilité de donner un champ, une définition, un contexte général à même cette époque-là, puisqu'il faudrait considérer chacun des arts séparément, parce que chacun des arts a à la fois avance avec le reste, avance avec la science, vous nous l'avez dit, avance avec la langue, bien sûr aussi, avec la littérature, mais en même temps avance séparément. C'est-à-dire que pour chacun des domaines artistiques, finalement, il faut reprendre l'analyse, et puis l'analyse structurale, ce que vous faites, et puis distinguer, parce que la situation de l'architecture n'est pas la même que celle de la littérature, n'est pas la même que celle de la peinture, etc., etc., même si, évidemment, chacun de ces champs, chacune de ces disciplines artistiques entretient des trois rapports avec les autres, pour autant, chacun de ces domaines a aussi sa propre autonomie. Voilà. Alors, on va peut-être reprendre sur ce qui, pour vous, est le point crucial, quand même central, pour la situation française, c'est la langue, et notamment les aspects peut-être déjà centralisateurs de la langue, ou en tout cas fédérateurs de la langue française.
Oui, parce que je crois que j'ai déjà dit, hein, dans les émissions auxquelles on peut se reporter, toute l'importance de la littérature comme véhicule de la sensibilité, de l'imaginaire et des idées de l'époque. Ce qui est d'autant plus important à préciser, c'est que, bien sûr, il y a la question de la langue. Donc, la langue étant vraiment ce qui structure la pensée, suivant les langues, il va y avoir des structurations différentes. Ça, c'est pas très difficile à comprendre. Mais il y a surtout un point qui est vraiment saillant et qui distingue la France d'un pays comme l'Italie, par exemple. C'est qu'il y a vraiment la naissance d'un sentiment national. Bon, on connaît l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui, au début, ça ne porte que sur les textes juridiques et administratifs, hein. Mais il se trouve qu'en même temps, aussitôt dans la littérature, parce que justement il y a l'émergence d'un sentiment national, on a de grands écrivains dans la langue vernaculaire, c'est-à-dire d'abord évidemment Rabelais, Clément Marot en poésie, et puis on enchaîne après très vite sur Montaigne. Bon. Et ce qui fait la particularité de la France par rapport à un pays comme l'Italie, c'est qu'en Italie, il y a eu quelqu'un, là j'ai un trou de mémoire, mais j'espère que son nom va me revenir, il y a eu un Italien, un florentin, qui a essayé d'imposer une langue canonique, vernaculaire aussi, c'est-à-dire l'italien, sauf que, et même un italien qui en fait est le toscan, la langue de référence, qui aurait été le toscan, la langue de référence. Sauf que l'Italie étant morcelée en petits états, bon, je parle pas du sud de la botte où il y a le royaume de Naples qui a toujours été relativement important. Enfin, c'est même pas la moitié de l'Italie, hein. Mmh. Mais le nord de l'Italie est vraiment très morcelé et donc ça n'a pas pu marcher à cause de ça.
C'est-à-dire que selon les particularismes locaux, la langue n'était pas la même. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas, on ne parlait pas le même italien selon qu'on se trouvait dans la région de Rome, dans la région de Florence ou à Venise, par exemple.
Si on voyage encore aujourd'hui en Italie, on se rend bien compte qu'il y a des différences, si on parle un peu l'italien, entre ce qu'on entend à Naples, à Rome ou à Florence, de façon plus significative qu'en France, si on fait la différence entre Paris et Marseille. Hein. Mmh. Donc en Italie, il y a eu la volonté, une volonté de normaliser la langue, d'établir des règles canoniques, mais ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas d'unité administrative. Alors qu'en France, cette unité, elle est déjà là, hein, puisque on dit beaucoup de bêtises autour de l'absolutisme. La première des bêtises, c'est que même sous Louis XIV, l'absolutisme n'était pas si absolu que ça. Et puis ça a commencé beaucoup plus tôt. Il n'y a pas que Louis XIV qui a été ce qu'on appelle aujourd'hui un centralisateur jacobin.
On peut presque dire que ça commence à Louis XI d'ailleurs.
Donc ça a commencé à Louis XI. Hein, donc voilà. Et donc il y a la volonté notamment de François Ier. Et à l'intérieur de ça, il y a des écrivains. J'ai parlé notamment, je crois avoir mentionné Ronsard et La Franciade, mais il y a surtout Dubellay qui écrit une défense et illustration de la langue française, et pour qui c'est vraiment important d'écrire en français et d'élargir le vocabulaire en français. D'élargir le vocabulaire qu'on a à sa disposition avec du français et non pas avec des termes qui viennent de l'extérieur ou des termes italiens, par exemple. Mmh. Donc il y a vraiment cette volonté, ce sentiment national qui est porté par la littérature et qu'on va retrouver progressivement dans les autres arts. Alors, au moment de Dubellay, par exemple, dans la peinture, ça ne marche pas vraiment parce que ça tient, j'y reviendrai quand on parlera de la peinture, mais au statut du peintre, qui est encore quand même considéré vraiment comme un artisan. Il y a d'excellents peintres, hein, mais notamment dans la deuxième école Bellefontaine, des peintres comme, je vais dire les noms pour que les gens que ça intéresse puissent approfondir, comme Martin Fréminet, Toussaint Dubreuil, ça c'est la deuxième Renaissance de Fontainebleau. Mmh. Il y a Jean Cousin, le père et le fils, mais c'est quand même, on n'est pas dans la même catégorie, entre guillemets, que ce qui va se passer en Italie. Hein, donc, d'ailleurs, encore une fois, je crois l'avoir raconté, quand François Ier veut des décorateurs pour Fontainebleau, là, c'est donc la première Renaissance Bellefontaine, il demande à la famille de Gonzague de lui envoyer, et c'est comme ça que Primatis va se retrouver en France. Donc, ça montre bien justement les problématiques différentes d'un art à l'autre, comme vous le disiez dans l'introduction, parce que ça va en peinture, ça va mettre, il y a un effet retard un petit peu en France, alors qu'en architecture, dès la Renaissance, il y a déjà des figures plus je ne vais pas dire avec plus d'envergure, parce que ça serait injuste pour les peintres que je viens de nommer, même s'ils ne sont pas si connus que ça, malheureusement. Mais il y a des figures incontournables qui, en plus, vont être architectes du roi, comme par exemple Philibert Delorme. Et je crois justement avoir expliqué que Philibert Delorme avait créé une colonne. Vous savez, on a parlé de l'importance des ordres avec les colonnes hein, ioniques, doriques, ioniques, corinthiens, qui sont les trois ordres de base de tout classicisme. Et Philibert Delorme va évidemment s'inscrire dans la filiation italienne en architecture, mais avec cette préoccupation de faire quelque chose de français. Hein.
Oui, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a aussi dans cette façon de centraliser, enfin dans cet état relativement fort, des grandes figures qui apparaissent et qui vont structurer aussi, en partie le chant, parce que vous l'aviez déjà évoqué à plusieurs reprises, mais pour reprendre un petit peu ces éléments de contexte, c'est vrai que c'est très important de parler aussi des mécènes. Enfin, on appellerait aujourd'hui, on les appellerait comme ça. Je ne sais pas si à l'époque le terme était utilisé, je ne suis pas certain. Mais...
Non, c'est pas, ça ne s'est pas posé dans ce terme-là, mais c'est vrai que, parce que ça, pas de peinture notamment, alors là aussi, problématique différente d'un art à l'autre. Pour aussi redire deux mots du contexte, hein, la France connaît en cette fin de XVIe siècle et ce début XVIIe une période très compliquée. J'ai parlé des guerres de religion, dont j'ai dit grosso modo que ça les tensions s'apaisaient à la fin du règne d'Henri IV, mais ça continue quand même une dizaine d'années après. Hein, y a les problèmes avec Richelieu, il y a l'entrée de la France dans la guerre de 30 ans, et puis il y a aussi surtout la fronde, la contestation de la noblesse qui a toujours eu du mal, parce que cela faisait un certain temps que la noblesse était écartée du vrai pouvoir, au fond. Hein. Oui. Donc, ce contexte de tension fait que, par exemple, pour l'art de construire, je l'ai déjà dit, l'architecture... mis à part l'épisode d'Henri IV qui est quelqu'un qui essaye de remettre de l'ordre dans l'État avec l'aide de Sully, où il y a donc Henri IV pardon, est vraiment un roi bâtisseur. J'ai parlé de la place des Vosges, j'ai parlé de la place Dauphine, il y avait au nord du Marais le projet d'une place de France qui n'a pas vraiment été réalisé, mais après la mort d'Henri IV, tout ça retombe un peu à plat, d'autant plus que je crois aussi l'avoir dit, donc il y a la régence, enfin la première, hein, celle de la minorité de Louis XIII, et on ne peut pas dire que Richelieu, même s'il s'était fait bâtir un somptueux château à Richelieu, qui a été détruit à la suite de la Révolution, comme d'habitude, qui était un château d'une très grande importance, qui a été dessiné par Le Mercier, qui sera l'architecte un peu officiel de cette époque-là. Richelieu s'intéresse pas plus que ça, malgré tout, à l'architecture, et il délègue beaucoup à Sublet Desnoyers, le surintendant des bâtiments, qui lui-même va se reposer sur les frères Fréard, Fréard de Chambray et Fréard de Chanteloup, dont j'ai déjà parlé, et qui vont jouer un rôle dans l'architecture et dans la peinture. Et lesquels frères Fréard sont envoyés en Italie, et ça c'est vraiment un tournant aussi bien pour la peinture que pour l'architecture, ils sont envoyés en Italie avec mission de revenir avec des œuvres, ou en tout cas, alors une des premières missions, ça sera aussi de faire revenir Poussin, hein, 1640, et puis de revenir avec soit des œuvres, soit avec des moulages de l'Antiquité à Rome. Hein.
Alors on va reparler de ces échanges entre la France et l'Italie de l'époque, on va reparler de ces grands personnages et aussi des architectes et des grands faiseurs, finalement, des grands soutiens de l'art de l'époque, mais on va faire un petit intermède musical avec Vieux Gautier.
Thank you.
Alors, on vient d'écouter donc ce morceau du vieux Gautier que vous souhaitiez nous commenter un tout petit peu.
Oui, c'est un luthiste. Alors, au XVIIe, en France, pas qu'en France d'ailleurs, mais en France notamment, il y a vraiment une très grande tradition de luthistes, et avec des grands luthistes, dont le vieux Gautier. Et j'ai choisi cette musique-là, que j'aime évidemment beaucoup, pour montrer, à titre personnel, dans un échange, un jour je vous ai dit que la musique française du XVIIe était une musique métaphysique, parce que c'était une musique de l'intériorité.
Exact.
Et là, c'est donc un morceau qui s'appelle « Les dernières paroles ou testament de M. Mélenchon ». Et vous allez voir qu'on est à l'opposé de tout ce qu'on imagine autour du mot baroque, parce que justement, on est quelque chose de très intérieur, et non pas de démonstratif, avec un renfort d'ornement donnerait un caractère brillant à la pièce. Là, c'est tout le contraire.
Alors, on va revenir après cet intermède musical, mais il y en aura d'autres que vous nous commenterez régulièrement maintenant. On va revenir aux architectes dont vous avez parlé dans l'émission qui a précédé, mais relativement brièvement. Là, vous avez cité tout à l'heure un certain nombre de personnages comme Philibert Delorme ou Le Mercier. Il y aura aussi Mansart, mais vous vouliez dire un mot de tous ces gens-là qui ont structuré un paysage qu'on connaît encore aujourd'hui, même si le château de Richelieu effectivement a été détruit. Il nous en reste d'autres. Et notamment, puisque j'évoquais Mansart, il reste Versailles.
Oui, alors il faut dire que ce qui se passe aussi, là il faut faire un petit historique aussi à nouveau, c'est que la Renaissance, en fait, ça commence au milieu du XVe siècle. D'ailleurs, j'ai mentionné Alberti à propos de la façade de Santa Maria Novella, qui est le prototype, en fait, de ce qu'on appelle après les églises jésuites. Alberti, c'est quand même aussi le premier de la série, longue série des traités qui rédige un traité. Et donc, il y a vraiment.
C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un moment où l'architecture commence à s'écrire aussi, c'est-à-dire à se fixer dans certaines pratiques, qui n'étaient pas le cas jusque-là.
D'autant plus que beaucoup d'architectes sont pris dans le courant, et notamment évidemment à Florence, dans le courant humaniste, et donc lisent, certains d'entre eux sont des lettrés. Même par exemple en peinture, quelqu'un comme Vinci qui n'a pas appris le latin, c'est quand même un grand lecteur, c'est quelqu'un de lettré, Vinci. Alors, il ne lit pas les ouvrages en latin, mais on a une époque où les traductions commencent vraiment à être importantes, et donc il accède quand même à beaucoup de choses. D'autant plus qu'en Italie, malgré les complications d'unification qui ne sont pas aussi favorables à l'émergence d'un sentiment national, ça existe quand même. Il y a Dante qui écrit en italien, donc par exemple, alors c'est même avant, donc voilà, un certain nombre des architectes sont des gens éduqués, donc capables d'écrire et même capables de théoriser, et ça va être le cas d'Alberti et de beaucoup d'autres après. Et donc, ils accèdent à la culture qu'on va qualifier par la suite d'humaniste. Parallèlement, donc, les textes classiques, hein, j'ai déjà expliqué ce que c'était. Et puis aussi, c'est le moment où on commence à dégager sur le forum romain les
vestiges.
Les vestiges. Mmh. Et donc, on est au contact non seulement du fameux traité de Vitruve, ça c'est le courant humaniste, hein, mais on est au contact de ce qu'ils ont laissé. Hein, on découvre les chapiteaux, les sculptures. Je crois avoir mentionné par parenthèse que les papes se servaient largement sur le forum, notamment en statue.
En tout cas, le musée du Vatican.
Il suffit d'aller au musée du Vatican pour le voir, justement. Donc, avec des groupes célèbres. Donc, on a vraiment cet idéal classique de l'Antiquité, plus romaine que grecque, qui fait que, voilà, on veut redémarrer. Comme pour laisser derrière soi l'épisode gothique, le mot gothique, ça vient de Vasari, hein, qui est le premier historien de l'art, qui est à la fois un grand peintre et en même temps un historien de l'art qui va écrire la vie des peintres les plus célèbres avec des commentaires. C'est lui qui va employer le terme gothique, qui va parler de la manière, la maniera. Et donc, il y a un grand courant classique dans l'architecture. J'ai mentionné Bramante, j'ai mentionné Palladio. Et puis au fil du temps, ce qui est normal, hein, petit à petit, cette rigueur, cette pureté des origines, de la Renaissance, va doucement, je dirais pas s'estomper, mais être recouverte par l'ornement, la profusion de l'ornement. Alors, on va me dire, vous êtes loin de la France. Pas du tout, parce que en France, il se produit la même chose, notamment avec Philibert Delorme, on peut en discuter, mais par exemple avec André du Cerceau, je crois que j'ai cité l'exemple du château de Charleval.
Alors, il se produit la même chose aussi parce que ces gens sont en lien les uns
oui,
avec les autres.
Oui, en plus, ils sont en lien. Il y a donc l'influence italienne, bien entendu, même s'il y a l'idée de faire émerger un sentiment national, y compris en architecture. Et puis, c'est un peu la pente naturelle, c'est-à-dire quand on revendique une pureté des origines, au fil du temps, petit à petit, on prend des libertés avec la pureté des origines. C'est presque, je dirais, un mouvement anthropologique.
Oui, hein. chaque architecte a certainement aussi le souhait de montrer quelque chose de son travail qui ne serait pas qu'une copie. Voilà.
Oui, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, petit à petit, une sorte de dilution de la pureté originelle et on rajoute d'autres éléments de vocabulaire et finalement il y a un moment où il y a une réaction en disant mais la pureté des origines elle est recouverte par l'ornement et c'est exactement ce que les frères Fréard vont faire avec les intelligents en architecture. Ça existe donc en Italie où avec Vignole on va et puis d'autres hein, après on va être tenté même le Bernin qu'on fait passer pour un baroque il y aurait long à dire, on va essayer de revenir à dégager un peu l'architecture de la gangue d'ornement qui la recouvre progressivement et en France pareil. Donc, il faut vraiment expliquer ça parce que, d'une certaine façon, au début du XVIIe, dans la première tiers du XVIIe, plutôt vers la fin du tiers du XVIIe, on tente de revenir à une architecture plus pure parce qu'on considère que l'architecture maniériste a perdu de la pureté des origines.
Alors, ça va être le cas de Mansart, par exemple ? On peut dire ça de lui ?
Non, on ne peut pas dire que Mansart a cette volonté-là. D'abord parce qu'on n'a pas vraiment de texte de Mansart sur le sujet. Mais Mansart a une bibliothèque avec évidemment tous les classiques des traités d'architecture. Lui, il n'est pas allé en Italie. Hein. Un des autres grands architectes de l'époque, Le Mercier, qui est l'auteur de la chapelle de la Sorbonne, qui va construire le château de Richelieu à Richelieu, et qui va d'ailleurs faire le plan de la ville de Richelieu, qui va être aussi mêlé. Alors là, c'est plusieurs. Je vais y revenir après, mais au Val-de-Grâce. Lui, il a fait le voyage d'Italie, mais Mansart, non. Mais c'est plutôt un contexte qui va être créé, notamment par les frères Fréard, puisque comme justement Richelieu ou même Mazarin, s'intéressent pas plus que ça à l'architecture. Ils vont jouer de leur puissance dans le domaine des arts, plutôt dans la peinture, dans les collections. On va revenir au mécène après. Donc finalement, c'est Sublet Desnoyers, l'intendant, surintendant des bâtiments, qui a un peu la haute main sur l'architecture, avec dans son entourage les fameux frères Fréard. Et Fréard de Chambray va vraiment parler d'une volonté, d'un souhait de repousser l'ornement le plus loin possible, hein, d'éviter tout ornement. C'est comme, pour lui, l'ornement, c'est un peu un dévoiement de l'architecture. D'accord. Et donc, il y a ce contexte-là qui se crée, parce que les personnalités n'arrivent jamais par hasard, et c'est jamais comme ça, on descend du ciel et on change tout.
Il y a toujours quelque chose avant, bien
sûr. Voilà. Et puis, il y a un contexte qui se crée. Hein. Et comme il n'y a pas, dans le premier tiers du XVIIe, pour les raisons historiques que j'ai expliquées, il n'y a pas le roi bâtisseur, il n'y a pas la volonté royale de construire des édifices, même pas reprise par Richelieu. Donc c'est finalement ceux qui s'intéressent vraiment à l'architecture qui, d'une certaine façon, prennent le pouvoir et dictent le goût, dictent ce que doit être l'architecture. Donc les frères Fréard, avec ce qu'on appelle les intelligents, c'est comme ça qu'ils s'intitulent eux-mêmes, oui, en toute modestie.
C'est toute modestie, ce que je veux dire, oui.
Vont dire l'architecture. Et donc Mansart arrive dans ce contexte-là. Là, évidemment, il y répond, parce que c'est sa propre personnalité, son génie, font que il s'écarte de ce qu'on pourrait appeler l'architecture baroque. Et là aussi, il faudrait remettre en cause le terme, même pour Rome. Hein. Donc, il y a assez peu d'ornement. Mais c'est plus cette idée, qui a d'ailleurs commencé avant, du bon goût, de l'élégance française.
Des proportions, avec ce lien avec une forme de rationalité, ou
oui,
peut-être la française
aussi. Une rationalité dans le sens. Des proportions, on ne peut pas dire que même de ce que les gens qualifient de baroque, il y a une absence de proportion.
Parce de qu'on simplicité, je voulais dire, oui.
De sobriété, oui, de sobriété. Et Mansart, vraiment, c'est l'architecte par excellence, parce que c'est celui qui va utiliser les volumes. Je crois que j'ai parlé de la composition pyramidante, hein, des façades, avec les avant-corps. Donc les deux œuvres majeures de Mansart, qu'on peut toujours voir aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais il y a eu beaucoup de démolitions. Mais il y a d'autres œuvres de Mansart qui subsistent. Mais les deux choses les plus frappantes, les deux édifices les plus frappants, c'est évidemment l'aile de Gaston d'Orléans à Blois, j'en ai déjà parlé, hein, qui est vraiment la quintessence de l'architecture de Mansart. Et puis le château de Maison, hein, de Maison Lafitte.
Alors l'émission arrive à son terme, on reprendra bien sûr dans la prochaine à partir de Mansart, puisque c'est un moment important de l'architecture évidemment de l'époque. Mais juste avant de se quitter, nous allons écouter un morceau de Froberger, vous voulez en dire un mot.
Alors donc Froberger, c'est un musicien vraiment du 17e, de la période qui nous occupe, puisque ses dates c'est 1616-1667. Et là, c'est une œuvre de circonstance, c'est une lamentation faite sur la mort très douloureuse de Sa Majesté impériale Ferdinand III, donc d'Autriche. Hein. Et j'ai choisi Froberger parce que ça fait écho à ce que j'ai dit sur le vieux Gautier. Ils se sont connus parce que Froberger, comme quoi les choses se passent aussi au-delà des frontières. Hein. Il y a des courants qui traversent et qui sont vraiment le climat d'une époque. Et Froberger, c'est vraiment un musicien européen. Quand on regarde la carte des voyages de Froberger, il a voyagé dans toute l'Europe. Il a commencé par aller en Italie, étudier auprès de Frescobaldi. Il est beaucoup venu à Paris, où il a rencontré des musiciens français comme justement le vieux Gautier, Chambonnière. Et là aussi, vous allez voir que c'est une musique qui est tout, qu'on appelle pourtant baroque, mais qui est tout sauf ce qu'on appelle baroque.
Merci Philippe Frétinier, et merci à nos auditeurs. Nous nous retrouvons pour la prochaine émission, et je rappelle, on commencera par Mansart. Merci, au revoir. Thank you.